pour une nouvelle édition de l'économie en question et un retour sur un débat récurrent, on pourrait dire aussi permanent dans la vie économique française, la dépense publique. Le plus souvent à partir de rapports sévères qui suscitent commentaires et débats, c'est encore le cas cette semaine. Et le contexte électoral dans lequel nous nous trouvons ajoute un peu plus de passion aux échanges. Deux rapports donc, l'un traditionnel, celui de la Cour des comptes, instance chargée notamment d'évaluer la qualité de gestion des politiques publiques. La France, nous dit le rapport, reste avec l'Espagne, le Portugal, la Grèce, un des derniers pays de la zone euro encore en procédure de déficit excessif. Avant de détailler plusieurs exemples de mauvaise gestion et de gaspillage, traditionnel aussi d'ailleurs, on le notera au passage, la large couverture médiatique, rapportant ces exemples à l'envi et déplorant qu'une fois dénoncés, ils ne semblent pas vraiment corrigés. Les recommandations de la Cour des comptes sont-elles entendues et suivies des faits? Une bonne question que nous nous poserons sans doute tout à l'heure. Deuxième rapport, cette semaine encore, celui de l'Institut de l'entreprise, centre de réflexion indépendant qui livre un travail collectif au titre sans ambiguïté, dépenses publiques, l'état d'alerte. Là encore, les dépenses de fonctionnement, les dépenses sociales d'intervention sont durement pointées, bien supérieures, dit le rapport, aux dépenses d'investissement et elles plombent les efforts de croissance. Alors comment entendre toutes ces critiques? Notre argent public est-il trop largement utilisé? Est-il surtout mal utilisé, mal réparti? Où sont les priorités? Où sont les responsabilités? Eh bien, c'est tout cela que nous parlons tout de suite. La France est-elle si dépensière? C'est notre thème. Et nous recevons Marion Monnet, économiste à l'Institut des politiques publiques, François Eckal, économiste lui aussi président de Fipeco, un site où l'on peut tout savoir sur les finances publiques, et ancien de la Cour des comptes, ce sera intéressant dans notre débat bien sûr. Et enfin Raoul Sampognaro, économiste au département analyse et prévision de l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques. Et puis en toute fin d'émission, la chronique attendue de Marie Bellan, journaliste aux Échos avec son chiffre. Vous avez aussi l'occasion, les uns et les autres, de venir avec votre chiffre. On leur laissera de la place, pris dans l'actualité nationale ou internationale. C'est bien l'économie en question. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et bienvenue à tous. Les chiffres donc, déficit de l'État 2016 autour de 70 milliards d'euros, des dépenses nettes à 374 milliards d'euros, des recettes à 302, on fait les comptes. Les recettes de l'État ne couvrent que 80% des dépenses. Un budget de l'État déficitaire, il faut dire que ça date de 1974. Et un régime de la sécurité sociale installé dans le rouge, tout cela nous le savons, dépenses publiques atteignent actuellement 57 ou 58%, j'ai vu des chiffres un peu différents d'ailleurs, du produit intérieur brut de la France. Première question, et je la pose évidemment à François Eckal, aujourd'hui je l'ai dit en disponibilité de la Cour des comptes, mais qui a été très actif sur la rédaction des précédents rapports. La Cour des comptes donc publie, c'était mercredi, son rapport annuel, met en lumière de mauvais exemples de gestion publique et entraîne, comme d'habitude, un grand scepticisme dès lors que l'on se propose d'y remédier. Pourquoi cela, François Eckal? Je sais bien que vous n'avez pas d'autorité pour imposer les corrections, mais tout de même, pourquoi cette voix qui crie dans le désert? On a le sentiment qu'on a envie de vous dire, mais oui, c'est ennuyeux, et à l'année prochaine.
Oui, en effet, c'est un petit peu décourageant, mais c'est aussi normal, hein, parce que la Cour des comptes n'a pas de pouvoir de décision. Et dans une démocratie, c'est tout à fait normal. Nous ne sommes, moi je n'étais, lorsque j'étais à la Cour des comptes, qu'un technocrate sans légitimité. Ceux qui ont la légitimité dans une démocratie, ce sont les élus. Donc c'est le Parlement et c'est le gouvernement. Donc si des décisions doivent être prises, c'est à eux de les prendre. La Cour peut seulement mettre en évidence la mauvaise gestion des finances publiques. C'est déjà beaucoup. S'il y a des pays où il n'y a pas l'équivalent de la Cour des comptes, c'est déjà beaucoup, mais elle ne peut pas aller plus loin. Alors, une précision tout de même, c'est lorsqu'elle découvre des faits qui sont illégaux, qui relèvent de sanctions pénales, à ce moment-là, elle ne sanctionne pas elle-même, mais elle les défère au juge pénal. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté,
il n'y a
pas
de problème. Il y a quand même des suites.
Et ça arrive assez souvent. Donc il y a des suites. Mais la mauvaise gestion des finances publiques, ça n'est pas vraiment sanctionnable, sauf par les citoyens en mettant un bulletin dans l'urne.
Beaucoup d'exemples pourtant que vous donnez, certains sont bien connus, la formation professionnelle, moi j'y reviens souvent dans l'émission, c'est vraiment un problème, secteur très exposé à la fraude, dites-vous, et on ne se prive pas de la fraude, je crois, avec des prestations insuffisamment contrôlées, mais ça coûte cher de le faire. 14 milliards de chiffre d'affaires, la formation professionnelle, c'est vraiment un énorme sujet qui revient tous les ans. L'écotaxe poids lourd, celle-ci est nouvelle cette année, mais on peut également s'en plaindre, son abandon aurait coûté plus d'un milliard d'euros. Pour indemniser, évidemment, tous ceux qui avaient installé les fameux portiques et surtout a coûté cher, hausse de la taxe des carburants, pénalisant les automobilistes et les poids lourds français, ce qui était à peu près l'inverse, c'est bien cela, François Eckhart. Oui. Et puis, déficit public. Bon, on ne revient pas sur tout cela, mais c'est quand même assez dommage, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment pourrait-on juger alors la situation actuelle, Raoul Sampognaro, je reviens vers vous, enfin Marion Monnet, comme vous le souhaitez, cette question du déficit.
Oui, permanent. Bonjour, merci pour l'invitation. Et moi, je vais déjà commencer en vous donnant encore un chiffre différent de la dépense publique, car il faut savoir que la dépense publique, telle que mesurée par les comptes nationaux, c'est une convention statistique qui inclut, entre autres choses, par exemple, le CICE, et le crédit impôt recherche, mais restons sur le CICE, car la Cour des comptes dit qu'il y a une vraie dérive de la dépense publique en France.
Deux mesures mises en place par le gouvernement actuel.
Au cours du quinquennat. Déjà, le CICE, c'est si on diminue des crédits d'impôt, la dépense publique n'est pas à 57%, elle est à 55%, et quasiment on élimine la dérive identifiée par la Cour des comptes de la France par rapport à la zone euro. Donc ça, c'est encore une autre mesure. Il faut savoir que sur ce champ restreint, la dépense publique a connu ses progressions les plus faibles de l'histoire des comptes nationaux en 2014, en 2015, et ça sera certainement vrai en 2016, mais on verra ça.
Oui, mais c'est une correction importante de votre point de vue. On a quand même corrigé.
En tout cas, s'il y a un candidat qui transforme au hasard le CICE en baisse de charges, au hasard, tout de suite, la dépense publique baisse de 2% à cause des conventions statistiques de la comptabilité nationale.
Marion Monnet, l'Institut des politiques publiques à l'analyse.
Oui, et par ailleurs, c'est vrai qu'on signale souvent que la France est un des pays les plus dépensiers de l'Union européenne avec 57% du PIB de dépenses publiques. Mais ces dépenses n'incluent pas le périmètre de dépenses n'est pas le même en France qu'en Allemagne, par exemple, qui a que 44% de dépenses du PIB. En effet, en France, on a fait le choix de mutualiser le financement des besoins sociaux. Donc, les dépenses publiques, 57%, ça inclut évidemment les dépenses de retraite, de santé, qui sont financées de manière privée en Allemagne et au Royaume-Uni, notamment. Donc, c'est pas totalement comparable. En effet, la France dépense plus, mais parce qu'elle fait le choix de le financer de manière collective, contrairement à d'autres.
François Eckhall, ces corrections sont quand même utiles, ces précisions.
Oui, mais elles ne changent pas fondamentalement les données du problème. Il y a plusieurs façons, en effet, de mesurer les dépenses publiques, avec ou sans les crédits d'impôt, comme le CICE. Mais même si on retire les crédits d'impôt, l'écart entre la France et la moyenne de la zone euro ou l'Allemagne est à peu près du même ordre de grandeur, parce que des crédits d'impôt, il y en a aussi dans les autres pays. Donc ça ne change pas grand-chose. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'en effet, il y a eu une modération de l'évolution de la dépense publique ces dernières années, depuis 2010. Donc la France, en effet, a fait des efforts. Et la Cour des comptes, d'ailleurs, aussi bien que le rapport de Michel Pébault, le reconnaissent. Simplement, Lise, et je partage ce point de vue, c'est que malgré tout, nous restons, quelle que soit la définition, quand même avec un taux de dépense publique, et donc un taux de prélèvement obligatoire nécessaire pour les financer, qui est nettement plus élevé que celui des autres pays. Alors, comme le dit Marion, c'est en effet un choix de société. C'est vrai que nous avons choisi d'avoir, par exemple, des régimes de retraite obligatoires et en situation de monopole, y compris des régimes complémentaires, alors que dans d'autres pays, on choisit d'autres solutions avec des régimes de retraite pour lesquels il y a un choix. Et bon, donc c'est différent. Ça se traduit en effet en France par un niveau de vie relatif des retraités qui est supérieur à celui des actifs, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Donc c'est très bien pour les retraités, c'est un excellent choix, mais c'est financé par des prélèvements obligatoires qui réduisent la compétitivité des entreprises et qui probablement se traduit, explique en partie, le chômage des jeunes. Donc nous faisons le choix des seniors au détriment des jeunes, c'est un choix de société, mais qui est regrettable.
Toujours le même débat, finalement, où doivent se situer les dépenses. Et c'est vrai que, je l'ai dit, le rapport, vous venez faire allusion à un rapport de l'Institut de l'entreprise, que j'ai présenté aussi, dirigé par Michel Pébrot, vous l'avez dit, ex-patron BNP Paribas, et qui pointe effectivement ces dépenses de fonctionnement, ces dépenses sociales, comme si elles étaient à dénoncer, finalement, et qu'il regrette qu'il n'en ait pas davantage sur l'investissement. C'est ça le débat central.
Moi, je voudrais revenir sur les les questions des retraites très importantes et sur la supposée dérive des dépenses publiques.
Il faut supposée dérive pour vous.
Déjà, depuis 2014, la dépense publique est clairement sous maîtrise. Et ensuite, il y a par exemple le Aging Report de la Commission européenne qui compare, qui, à partir des projections démographiques faites dans tous les pays de l'Union européenne, montre que à moyen terme et long terme, la dépense publique va baisser de 2 points en France, essentiellement du fait des réformes de retraite déjà votées, de 3 points de PIB selon l'Union européenne, et à savoir que l'Allemagne, les projections pour l'Allemagne, c'est une hausse de la dépense publique de 5 points. Donc je pense qu'il faut garder en tête que la dérive structurelle des finances publiques, des dépenses publiques, n'est peut-être pas la France qui est le premier coupable.
Oui, on parle toujours la France en tête.
C'est plutôt l'Allemagne, mais je pense qu'il faut garder en tête ça quand on parle de situation de court terme, quand on demande à l'Allemagne de relancer sa dépense publique. Il faut savoir que spontanément, elle va augmenter de 5 points, alors qu'en France, elle va diminuer de 2 points.
L'Allemagne, dont on sait quand même qu'il y a un déficit d'investissement aussi, hein, dans cette situation plutôt favorable qu'elle connaît. Marion Monnet.
Et par ailleurs, quand on lit le rapport Pébro et ses propositions dans le détail, il appelle de ses voeux un retour à l'équilibre des finances publiques. Mais quand on regarde ses propositions, il propose de passer graduellement, certes, de 57% à 50% des dépenses publiques, mais tout en faisant baisser le taux de prélèvement obligatoire de 6 points également. Donc l'effet sur la réduction du déficit, elle est quasi nulle en réalité.
Vous n'êtes pas convaincu du tout?
Pas vraiment.
François Hical.
Pour revenir sur ce que vient de dire Raoul, il est vrai que la France a un avantage par rapport à beaucoup d'autres pays d'Europe qui est cette démographie. Donc les évolutions démographiques de la France, toutes choses égales par ailleurs, en effet, vont faire que ces dépenses publiques à un horizon lointain vont augmenter moins vite que ceux des autres pays. Mais si on prend, il citait les prévisions de la Commission européenne, ce rapport, il y a un autre rapport qui vient d'être publié il y a une semaine par la Commission, ou en janvier par la Commission européenne, qui, de manière un peu plus globale et synthétique, présente l'évolution des dettes publiques, la capacité des différents États à maîtriser leur endettement public au cours des prochaines années, en tenant compte notamment de cet effet démographique. Et on voit que la France est un des pays qui aura le plus de mal à stabiliser sa dette publique, beaucoup plus que l'Allemagne dans les 20-30 prochaines années.
Ce qui vous inquiète surtout, François Hical, avec d'autres, hein, et vous avez collaboré d'ailleurs à ce fameux rapport de l'Institut de l'entreprise, c'est la perspective d'une remontée des taux d'intérêt. On sait qu'ils sont très bas actuellement et que la France, comme d'autres, en profite. Mais vous nous dites, avec les taux de 2005, la charge de la dette doublerait.
Alors, ce n'est pas moi qui le dis,
c'est
la Cour des comptes.
Ah oui, ça c'était la Cour des comptes, vous avez raison. Mais l'avertissement est le même.
C'est sûrement vrai. Donc,
mais l'avertissement est le même.
Ce qui est certain, c'est que les taux d'intérêt ne peuvent plus baisser. C'est difficile de l'imaginer. Donc ils vont forcément augmenter pour des raisons naturelles, parce que la croissance repart quand même. Et donc les politiques monétaires vont devenir forcément un petit peu plus restrictives. L'inflation est en train de repartir dans la zone euro. Et cette augmentation des taux d'intérêt, elle aura des effets très importants sur les dépenses publiques. Rappelle que de manière tout à fait extraordinaire, depuis 10 ans, la dette publique a quasiment très 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 fortement augmenté et la charge d'intérêt des administrations a baissé de plusieurs milliards d'euros. Ça, c'est l'effet de la baisse des taux. Si les taux repartent dans l'autre sens, et ils ne peuvent que repartir dans l'autre sens, on aura l'effet inverse et donc il sera beaucoup plus difficile de maîtriser les dépenses publiques dans l'avenir.
Ah, Wilson Pognaro.
Certainement, les taux d'intérêt devraient augmenter à moyen terme, mais il faut aussi se rappeler qu'aujourd'hui, le taux marginal, donc le taux auquel la France s'endetterait aujourd'hui et après-demain, est plus bas que le taux moyen de la dette publique qui existe aujourd'hui. Donc il y a un risque, ça c'est indéniable, qui va prendre du temps à se matérialiser dans les finances publiques parce qu'on a le stock de dette prise à taux bas. Ensuite, la question des taux bas, il faut aussi avoir en tête qu'ils ne sont pas en train d'augmenter, ils sont un tout petit peu en train d'augmenter du fait d'un risque français avec les élections, mais ils sont essentiellement en train d'augmenter à cause des nouvelles anticipations avec la nouvelle politique de Trump qui ferait sortir apparemment l'économie mondiale de la trappe de liquidité dans laquelle elle était embourbée. Et du coup, si on s'intéresse à la soutenabilité de la dette publique, il faut quand même sortir de la politique déflationniste qui rend aussi difficile l'ajustement des finances publiques.
Oui. Mario Monnet, quand l'Institut des politiques publiques auquel vous appartenez constate, hein, comme on vient de le faire maintenant, cette trajectoire donc depuis le début du quinquennat, qui est vraiment hausse des prélèvements obligatoires, ça chacun l'a constaté, baisse des dépenses publiques, vous le soutenez, là-dessus vous êtes un petit peu en discussion avec d'autres, et cette diminution des dépenses publiques quand même reste plus modeste que prévu selon vos analyses.
Oui, bien sûr. D'après nos analyses, donc dans le cadre de nos travaux à l'Institut des politiques publiques, on a eu l'occasion vraiment d'éplucher les différents documents budgétaires. La baisse des dépenses publiques a été bien moindre que celle qui était annoncée. C'est ce qui explique en fait qu'on n'ait pas eu ce retour à l'équilibre des finances publiques qui était prévu initialement pour 2017 et qui sera prévu pour dans quelques années à venir. Donc ça c'est vrai, mais d'autre part, nous, ce qu'on aurait aimé pouvoir faire, on a pu le faire pour l'analyse des nouvelles mesures en prélèvement obligatoire. C'est possible de pouvoir savoir quelles mesures ont été prises et de faire un historique de ces mesures sous les différents quinquennats. Ça a été impossible de reconstituer ça pour les mesures en dépenses. Et pour nous, c'est un vrai problème, ce problème de gouvernance des dépenses publiques.
Pour quelle raison, expliquez-moi.
C'est-à-dire pour maîtriser pour nous la dépense publique, si c'est une des priorités. Il faut déjà pouvoir avoir un tableau de bord des différentes mesures en dépenses, combien ça a coûté. Et une fois qu'on a ce tableau de bord qui est disponible, nous, ce qu'on prône à l'IPP, c'est d'évaluer, de prendre ces mesures et d'évaluer leur efficacité. Ont-elles atteint leur objectif, oui ou non? Et pour nous, c'est vraiment ce tableau de bord et ces évaluations rigoureuses qui doivent être menées qui nous permettent de mieux allouer la dépense publique.
Oui. Mais ça, à ce stade, vous n'en disposez pas. Par exemple, sur la fameuse formation professionnelle dont nous parlions en commençant, vous n'avez pas vraiment les données très précises là-dessus?
Alors, on n'a pas le tableau
de bord. On sait que c'est un poste de dépense énorme.
Bien sûr. Non, alors faut aller chercher dans le méandre des différents documents budgétaires. Oui. Et on n'a pas le tableau de bord comme on peut l'avoir pour les prélèvements obligatoires. Et pour nous, c'est vraiment un réel problème de gouvernance de la dépense publique.
Et la Cour des comptes non plus, on n'en dispose pas, François Eckhall.
Ça renvoie au débat sur les 50 milliards d'économies du gouvernement Hollande. Enfin, c'est le même type de débat.
C'est vrai.
Comment mesure-t-on les économies sur la dépense? Pour certaines dépenses, c'est relativement facile. Si vous supprimez une allocation, vous pouvez calculer exactement combien vous gagnez. Mais pour beaucoup d'autres dépenses, comme les investissements publics ou les dépenses de fonctionnement, l'habitude a été prise, et on peut le justifier, de considérer qu'on fait des économies si les dépenses augmentent moins qu'elles n'auraient augmenté spontanément, à politique inchangée. Et toute la difficulté est de savoir ce qu'on entend par une augmentation spontanée à politique constante de la dépense. Il y a de multiples façons de le mesurer, d'où d'ailleurs le débat sur les 50 milliards, qui finalement ne sont pas 50 milliards, mais pourraient être beaucoup moins et pourraient être calculés de manière très différente. Donc c'est un sujet technique très difficile, malheureusement. En effet, on peut être frustré. Je comprends la frustration de Marion, parce que je crains pour elle qu'elle n'ait jamais les chiffres qu'elle cherche.
Et c'est un peu le problème. Raoul Saint-Pognard-Rossi, on revient. Alors là, j'ai encore une question pour vous trois. Parlons maintenant de ce qui se passe, ce budget 2017. Je crois que vous êtes nombreux à juger qu'il est peut-être un peu optimiste de la part du gouvernement. On le verra à la fin de l'année, peut-être pas d'ailleurs. Je vous vois faire la mauvaise.
Je dirais que notre prévision est qu'un retour à sous la barre des 3% est faisable avec ce budget-là, avec cette loi de finances. Nous, notre prévision est à 2,9%, donc on est vraiment à la limite.
2,9%.
Là, oui, 2,9% du PIB. Et il ne faut pas se cacher que le gouvernement, là, a utilisé beaucoup d'imagination comptable pour avancer des recettes et pour décaler des dépenses. Ça, c'est indéniable. Et même l'augmentation du taux de CICE à 7%, qui coûte 2 milliards d'euros selon le PLF, a été fait...
Projet de loi de finances.
A été fait une semaine après un rapport du comité du suivi de France, piloté par France Stratégie, qui était un peu assassin sur la mesure. Ouais. Donc on voit que cette comptabilité un peu innovative se fait des fois au détriment de l'efficacité de la dépense publique.
Mais alors sur l'avenir, comment peut-on parier à présent sur ces dépenses? Vous avez ainsi, dans l'Institut de l'entreprise, vous faites plusieurs propositions, hein, on les a vues, c'est-à-dire faire mieux avec moins. C'est le point de départ, François Gall.
Oui, on peut certainement
faire mieux. Allons-y, emploi public, nous en avons déjà parlé.
On peut certainement, de toute façon, faire mieux avec le niveau de dépenses publiques actuelles, et on peut probablement avoir la même qualité de service public et la même ambition en matière de redistribution ou d'intervention publique
Est-on si sûr de cela si on parle de santé?
Si on reprend le rapport public annuel de la Cour, et chaque année, on a 20, 30, et puis je ne parle pas de tous les autres rapport de la Cour qui montre que nous avons quelques progrès à faire en matière de gestion des dépenses publiques.
Mais si l'on parle de qualité...
Des économies, on peut en faire beaucoup et dans des tas de domaines.
Qualité des services publics, par exemple ?
La qualité inchangée. Mmh. Bien sûr.
Mmh. Oui, vous le pensez.
Ah oui.
Parce qu'on a un peu le sentiment que le débat est là, quand l'OCDE nous dit, oui, c'est vrai, en France, les prélèvements obligatoires sont plus élevés peut-être, mais la qualité des services publics est là. Après, est-ce qu'on démontre
comme le dit, alors je vais paraphraser Didier Migaud, parce qu'il aime bien dire ça, et bon, je vais répéter ce qu'il dit.
Président de la Cour des comptes.
Voilà, la France est systématiquement sur le podium en matière de dépenses publiques dans quasiment tous les domaines. Elle est assez rarement sur le podium en matière de qualité de ses services publics et d'efficacité de services publics. Prenez l'éducation, le logement, etc. On ne peut pas dire que nous sommes sur le podium.
Raoul Sampognaro.
Par exemple, pour les dépenses publiques non individualisables, donc on va dire les tâches plus collectives, sécurité, l'administration elle-même, là, la France, elle occupe plutôt la 10e place de l'OCDE, qui est plutôt dans la moyenne, et même c'est en dessous des États-Unis. Donc il y a quand même, si la France est dans le podium de tous les indicateurs de dépenses publiques, c'est parce qu'elle a choisi un modèle de protection sociale collectif et public.
Parlons un peu des programmes de certains, en tout cas des principaux candidats à la présidentielle, ceux que nous connaissons en tout cas dans le détail. La baisse de 100 milliards d'euros en 5 ans annoncée par François Fillon, la réduction bien sûr du nombre des fonctionnaires, le candidat de la droite qui propose, je cite, d'augmenter le temps de travail dans la fonction publique de 35 à 39 heures, de reporter l'âge de la retraite et ça c'est un point qui revient chez quasiment presque tous, de réformer les collectivités territoriales. Là aussi, mieux à faire. Marion Monnet, du côté de l'Institut des politiques publiques.
Oui, alors par rapport au programme de François Fillon, c'est pas un tenant de l'austérité non plus, puisque c'est un peu la même histoire qu'avec le rapport Pébrot. Il propose une réduction de 100 milliards des dépenses publiques, mais par ailleurs, une réduction quasi équivalente du taux de prélèvement obligatoire. Donc du point de vue du rétablissement des finances publiques, ce sera, j'ai pas plus d'espoir que ça rétablisse le niveau de déficit, ça c'est certain.
Et chez Emmanuel Macron, un peu moins précis pour l'instant du moins, baisse de 60 milliards d'euros annoncée. Ça devrait se trouver là aussi dans la masse salariale des agents de l'État, mais à ma connaissance, pas beaucoup plus de précision. Est-ce que ce sera du côté des effectifs, des rémunérations ou de la durée du travail? Que préconise-t-on à l'Institut de l'entreprise, François Eccal?
Il y a des marges de manœuvre sur la masse salariale publique, mais probablement pas du côté des rémunérations. Déjà parce que il y a beaucoup d'engagements ont été pris qui vont se traduire par des hausses substantielles de salaire en 2017-2018 pour les fonctionnaires et qui, dans certains cas, sont justifiées. Hein. D'ailleurs, la révision, la réforme des grilles salariales était une nécessité. Donc, si on veut faire des économies sur la masse salariale, ce sera sur les effectifs. Plus particulièrement, d'ailleurs, ça renvoie à votre autre question sur les effectifs des collectivités locales, parce qu'il y a probablement là, en effet, beaucoup de marge. Mais la difficulté étant que l'État n'a pas de moyens d'intervention directe sur les effectifs des collectivités locales. Le seul moyen qu'il a, il est indirect, il consiste
à réduire
les ressources des collectivités locales.
La dotation qu'il leur donne chaque année.
On voit qu'il y a une inflexion très nette des recrutements et de l'évolution des effectifs dans les collectivités locales, qui pour la première fois ont baissé en 2015.
Oui. Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon ne prévoit pas ni l'un ni l'autre de réduire les dépenses publiques. Et Benoît Hamon d'ailleurs ajoute qu'il ne voit pas pourquoi il devrait à tout prix respecter la règle européenne des 3% de déficit. Il envisage d'ailleurs de créer des postes supplémentaires dans l'éducation nationale, ce qui prouve qu'on peut aussi avoir d'autres priorités. Court commentaire là-dessus, Raoul Sampognaro, oui, Jean-Luc Mélenchon.
Sur les annonces de baisse ou de hausse de dépenses, mais je pense que ça joue plus pour les baisses. Il y a quand même ce que François avait dit au début de l'émission, que souvent on quantifie ces économies par rapport à un tendanciel, voilà, qui peut être la tendance spontanée de la dépense publique ou ça peut être la croissance potentielle supposée de l'économie. Donc quelque part, les deux annoncent un chiffre sans dire vraiment quel est leur tendanciel. Donc c'est un peu difficile à traduire vraiment en service public de plus ou en moins leur proposition.
Ouais.
Je pense qu'il ne faut pas oublier, même si d'un point de vue budgétaire, toutes les propositions sont globalement neutres, finalement, on va dire, celles qu'on a nommées, qu'il y a quand même des effets différents d'une baisse de la dépense publique et une hausse et une baisse de des prélèvements obligatoires qui jouent plus sur la durée. Et c'est un peu la politique de l'offre du gouvernement a un peu échoué parce que ces effets se font sentir sur le long terme alors que les effets récessifs se font voir tout de suite.
Et enfin, du côté du Front National, baisse de 60 milliards, là aussi, annoncée des économies sur, je cite, la gestion de la sécurité sociale, la fraude, l'évasion fiscale, l'Union européenne, l'immigration et la délinquance qui permettrait de dégager, nous dit la candidate, 60 milliards en 5 ans. À suivre. En tout cas, merci à tous les trois pour vos éclairages et on va passer à vos chiffres. En commençant par celui de Marion Bélan, journaliste aux Échos, notre partenaire aujourd'hui.
Bonjour, oui, mon chiffre c'est 30 millions. C'est le montant de l'amende encourue par les entreprises françaises qui ne respecteront pas, alors qu'il s'agisse d'elles-mêmes ou de leurs sous-traitants, les droits humains et environnementaux fondamentaux. Alors cette sanction a été introduite par la loi qui a été baptisée sur le devoir de vigilance des sociétés mères et qui sera votée définitivement mardi à l'Assemblée. Alors, il a fallu près de 4 ans quand même pour faire adopter cette loi, qui était portée à l'origine par le groupe écologiste et puis ensuite par les députés socialistes. Au départ, vous vous souvenez sûrement, c'était le drame du Rana Plaza, du nom du bâtiment qui s'était effondré au Bangladesh en avril 2013 et qui avait entraîné la mort de plus de 1000 personnes travaillant dans des ateliers de confection, qui a mobilisé la classe politique française. Des vêtements portant des marques appartenant au groupe Carrefour, Auchan, encore Camailleux, étaient effectivement fabriqués sur place. Alors, pour éviter que de tels drames ne se reproduisent, le texte de loi prévoit de nouvelles obligations pour les grandes entreprises françaises. Alors, seules les entreprises de plus de 5000 salariés et celles qui ont bien sûr leur siège social en France sont concernées et ont désormais l'obligation de dresser un plan de vigilance qui doit définir une cartographie des risques encourus et des procédures d'évaluation de ces mêmes risques, ainsi d'ailleurs que des procédures de mise en alerte en cas de manquement observé. Alors, les principes à respecter sont très larges puisqu'il s'agit de tous les droits humains et environnementaux fondamentaux listés dans les principes directeurs des Nations Unies. Alors on y trouve aussi bien l'interdiction du travail des enfants, l'interdiction du travail forcé, le respect de la liberté syndicale et bien sûr le respect des normes environnementales. Alors, l'originalité du texte, et c'est le point qui fait justement le plus polémique, c'est que l'entreprise pourra être tenue responsable du non-respect de ses principes par elle-même même ou par ses sous-traitants directs et indirects. Donc, cette mesure vise à éviter notamment que les grandes entreprises ne se délaissent de leurs responsabilités sur leurs sous-traitants de premier ou de second rang, comme cela a pu arriver. Alors, on l'imagine bien, pour les représentants des grands groupes tels que le MEDEF ou la FEP, l'étendue des principes à respecter et le nombre de sous-traitants à surveiller rend impossible le respect de la loi. Alors, la France n'est pourtant pas la seule à avoir adopté des dispositions législatives de cette nature. Nos voisins européens, par exemple le Royaume-Uni, l'Allemagne, ont aussi des obligations de ce genre, avec des sanctions qui peuvent parfois être beaucoup plus sévères. Mais, bon, il faut, et c'est là qu'il fait, c'est la grosse différence, il faut reconnaître que le périmètre des droits à respecter dans ces législations étrangères est tout de même beaucoup plus réduit que celui qui a été retenu en France.
Eh bien, merci Marie Bellan. 30 millions, donc, l'amende encourue par les entreprises françaises qui ne respecteraient pas cette règle. Vos chiffres aux uns et aux autres, Marion Monnet, pour commencer.
Oui, alors moi, ce sera 17%, comme les 17% de travailleurs sur le sol américain qui sont immigrés. Donc ça, c'est un chiffre de l'Institut américain des politiques migratoires.
Merci beaucoup, CQFD, Raoul Sampognaro.
Et mon chiffre, ça reste dans les finances publiques, mais c'est à la Méditerranée, en Grèce. Selon la Commission européenne, le surplus structurel, donc hors effet de la conjoncture de la Grèce, serait de 3,7%, 7% si on ne compte pas les intérêts de la dette, ce qui montre que les mauvais élèves ne sont pas souvent où on les attend.
Où on les croit. On y reviendra à la Grèce très prochainement. François Eckel, enfin rapidement, votre chiffre aussi.
Celui qui m'a le plus frappé ces trois derniers jours, c'est 47%. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le pourcentage de Français qui, dans les derniers sondages, déclarent qu'ils ne savent pas pour qui ils vont voter au premier tour de la présidentielle. Je crains que ça se termine par un taux d'abstention extrêmement élevé avec des surprises très désagréables.
Et c'est un économiste qui parle. Merci encore à tous les trois pour vos éclairages, à Marie Bellan également. Et notre petite équipe, Laetitia Coyat réalise l'émission aujourd'hui avec David Federman et c'est Laurence Genplin qui a préparé, documenté tout cela. Allez voir les sites FIPECO, celui de François Eckal, tout savoir sur les dépenses publiques, les blogs et les notes toujours intéressantes de l'Institut des politiques publiques et de l'OFCE. Merci encore, très bonne journée à tous et c'est tout de suite les informations.